jeux télé, les jeux télé peuvent créer des élans nationaux, parfois pour le pire. 10 septembre 2001, musique angoissante qui sonne comme un battement de cœur, lumière baissée, tension maximale. Face au regard froid de l'animateur, Charles Ingram ne tremble pas. Il prononce sa réponse après quelques hésitations. L'auteur, Nicolas Gogol. Bim, 1 million de livres. Les confettis pleuvent dans le studio. Charles Ingram vient de décrocher le million dans l'émission « Who wants to be a millionaire ?». Mais quelque chose cloche. La production accuse le gagnant de triche. Ses complices auraient mis au point un code grâce à des quintes de toux dans le public. Charles Ingram devient la risée de tout le pays. 25 ans plus tard, il est toujours victime de harcèlement. Mais d'autres jeux peuvent provoquer une mobilisation de masse et pour le meilleur. Et ça, mon invité le sait mieux que personne. Bonsoir Samuel Etienne.
Bonsoir Constance.
Vous présentez depuis 2016 Question pour un champion, un monument populaire de l'audiovisuel. En juillet dernier, la direction de France Télévisions a annoncé c'est la fin de la diffusion quotidienne de ce programme phare. Résultat, une pétition et des fidèles en colère. Avec vous, on va parler de votre métier d'animateur, de votre virage sur Twitch, de votre passion pour l'info et des coulisses d'un jeu mythique entre culture générale et bon vieux buzzer. Et pour se mettre dans la tête des champions qui participent à vos émissions, nous recevrons en dernière partie du Mac de l'été Gilles Brindjon, fondateur et président de 3 clubs Question pour un champion. Mais ce n'est pas tout, on aura aussi rendez-vous avec un invité surprise. À 18h30, comme tous les soirs, ce sera le Panorama Culture. Au programme, une balade sylvestre et artistique en Normandie, le retour des Black Keys et une série pour vous plonger dans le stress d'une matinale que vous connaissez bien, Samuel Etienne. Alors révisez votre culture G, préparez vos buzzers. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Bonjour Samuel Etienne, en entrant dans le studio,
ouais.
Vous avez dit que vous étiez très ému à chaque fois que vous revenez dans un studio radio. Pourquoi ?
Oui. J'ai découvert ce métier de journaliste il y a 30 ans par la radio. Je viens de la radio et c'est un média magique, c'est un média où les mots sont importants. Et de rentrer dans un studio radio, c'est jamais anodin pour moi, je me sens immédiatement très bien.
Et ben parfait, ben c'est le moment idéal pour passer au moment test, au moment magazine pour ados, au moment casquette vissée sur la tête pour éviter le soleil, Samuel Etienne. C'est l'interview haute saison. Vous passiez où vos vacances quand vous étiez enfant?
Je suis breton d'origine et il y a un endroit qui est vraiment cher à mon cœur, c'est Quiberon. Mes parents avaient acheté un petit appartement à Quiberon quand on était petit et on a passé tous nos étés là-bas et on s'est fait une bande de copains qui venaient de partout, d'ailleurs pas que de Bretagne, on avait des amis de région parisienne, de Belgique, qui sont encore des amis. Que je connais encore, et il y avait la plage, il y avait cette lumière incroyable de Quiberon, la côte sauvage, c'est un très bel endroit, et puis les fêtes d'ado.
Ah, dire plus là, moi ça m'intéresse. Quel genre de fête d'ado?
C'est la Bretagne, donc c'était intense.
D'accord.
J'ai beaucoup fait la fête. De mes 15 ans à mes 22 ans, je crois.
L'été, c'était la fête?
Tout le temps. Non, j'étais.
Il y a eu des histoires d'amour, Samuel Etienne?
Oui, bien sûr. Pas forcément à Quiberon, mais il y a eu des émois, il y a eu les petits émois de l'été. Ouais.
C'est quoi que vous détestez faire en été?
C'est plus paradoxal, mais aller à la plage.
Alors,
je reviens de Corse, on est tombé amoureux de la Corse, qui est une Bretagne avec un peu plus de soleil pour moi. J'adore
beaucoup plus quand même. Je suis désolé pour les Bretons, mais on va arrêter l'hypocrisie deux secondes.
Et on y passe maintenant notre mois de juillet. Et moi, j'ai une peau d'Irlandais, j'ai une peau d'anglais, et je ne peux pas vraiment aller à la plage, je ne peux pas m'exposer. Et c'est au grand désespoir de ma famille, mon épouse et mes enfants qui adorent y jouer. Alors, quand je vais à la plage, vous voyez le gars avec un t-shirt et un bob sous le parasol, c'est moi. Et c'est pas super.
La télé en été, pour vous, c'était quoi dans votre enfance? Moi, c'est Fort Boyard, par exemple.
Ah.
Est-ce qu'il y avait un programme que vous regardiez?
Non, l'été, on n'était pas trop devant la télé. Je crois que mes parents ne regardaient pas tant que ça la télé.
Paradoxalement.
Oui. Mais moi-même, je ne regarde pas trop. Regarde pas trop la télé. Par contre, j'ai des souvenirs émus de télévision. Je sais qu'il y a des émissions que j'ai regardées ado justement et qui m'ont sans doute donné envie plus tard de faire de la télé.
Je pense, par exemple,
Les Enfants du Rock sur Antenne 2, émission mythique sur l'actualité musicale avec un ton incroyable. Il y avait Philippe Manœuvre, il y avait Antoine de Caunes, c'était incroyable. Et puis quelques années plus tard, Le Cercle de Minuit, émission présentée par Michel Field, qui était une émission sur l'actualité culturelle et qui était une très très belle émission, une espèce d'ovni aussi. Et je crois que ce sont des émissions qui m'ont donné envie de faire ce métier plus tard.
On va revenir justement sur votre carrière audiovisuelle et sur votre arrivée à Question pour un champion. Mais avant ça, moi j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans. C'est un peu l'été du premier été de liberté. On est en 91. Serge Gainsbourg nous a quittés. Les Marseillais d'IAM et NTM du 93 se tirent la bourre avec leur premier album studio. Mais il se passe beaucoup d'autres choses.
Pourquoi s'arrête-t-on maintenant ?
Parce qu'il faut que tu me promettes que tu ne tueras plus jamais personne.
Très bien.
Tu le jures ?
Quoi ?
Tu lèves la main droite et tu dis « je jure de ne plus tuer personne ».
Je jure de ne plus tuer personne.
Bon, en route.
Tu veux manger ?
Poisson cru. Comme au Japon. Et frais. Les Japonais, ils appellent ça du sushi. On a plus de sushi à se faire.
Miles Davis a rendu son dernier souffle. Le trompettiste le plus célèbre du jazz moderne est mort hier à Santa Monica en Californie des suites d'une longue maladie.
Je vous ai vu lever la main au moment de la scène de Terminator 2. On a entendu également la bande-son du jeu vidéo Sonic sur laquelle vous hochiez la tête. Les Amants du Pont Neuf, Lenny Kravitz et puis la mort de Miles Davis. Samuel Etienne, vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans, cet été 91?
C'est un été étrange parce que à l'époque je suis parti au Japon.
Pourquoi ?
Pour l'aventure, pour la découverte, parce qu'à l'époque, je ne savais plus trop ce que je voulais faire, je m'étais un peu perdu. Mon rêve d'enfant était de devenir journaliste, mais j'avais oublié ce rêve-là. Et puis, j'avais eu des rêves de gloire, je voulais faire l'ENA.
Oh.
Tout ça, puis ça n'avait pas marché. Hein. ça n'avait pas bien fonctionné, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais faire. Et j'ai retrouvé le film, et cet été-là, je suis parti au Japon.
Et vous êtes resté combien de temps ?
2 ans.
2 ans ?
Ouais.
2 ans au Japon,
oui.
Je ne savais pas du tout.
Oui, mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai trop parlé, en fait, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire.
Vous êtes tombé amoureux du Japon au moment de ce voyage-là ?
Oui, et puis on m'a proposé un petit job dans une famille japonaise, où je m'occupais notamment un peu des 2 enfants. Et je suis resté là en attendant de savoir ce que je voulais faire de ma vie.
Mais ça explique le tatouage secret, Samuel Etienne.
Les tatouages. Je suis un vrai yakuza.
Voilà, c'est ça. Avant de parler de votre parcours à la télévision et à la radio, on reste en 91 avec la chanson la plus diffusée cette année-là. Je vous le donne en mille, c'est Désenchanté de Mylène Farmer.
Thank you.
On est plutôt enchanté de ce titre de Mylène Farmer, extrait de L'Autre, son troisième album.
France Inter. Le mag de l'été.
Il est 12h30 en temps universel, le journal présenté aujourd'hui par Samuel Etienne.
Bonjour, avant cette page africaine, l'actualité en bref dans le monde. Les Français très partagés sur l'affaire des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Selon un sondage publié par le quotidien Le Monde, 46% approuvent l'action du gouvernement, 46% la désapprouvent. Pas question pourtant d'infléchir la politique d'immigration de la France. Jacques Chirac et Alain Juppé sont d'accord sur ce point. Ce week-end, le président français a une nouvelle fois renouvelé sa confiance au Premier ministre.
On est toujours avec vous, Samuel Etienne, animateur et journaliste. Je vous ai vu.
Le cadeau.
Bah oui, complètement bouche bée en vous entendant. On vient d'entendre un de vos journaux sur RFI, oui. 96.
Oui.
Et votre voix, elle a changé.
Oui, parce que alors ça me touche parce que je me suis jamais réentendue. C'est la première fois. Donc 96, ça fait trop.
Vous aviez 25 ans.
Ça fait 30 ans.
Ouais.
Donc c'est mes premiers. Bon, non. Ma première rédaction, ça a été RFI. Vraiment, c'est vraiment là où j'ai appris mon métier. Donc c'est pour ça que je connais bien la Maison Rode, ici, la Maison de la Radio, parce qu'à l'époque, RFI, c'était là, c'était au cinquième étage. Et j'ai adoré, j'ai passé 5 ans ici, et j'ai adoré, parce que c'était une super rédaction, des super journalistes, et une super ligne éditoriale. J'étais très fier de travailler là, je m'étais spécialisé en présentation très vite parce que c'est ça que j'aimais, raconter des histoires d'actualité. Et effectivement, Constance, vous avez raison.
La voix
n'est pas la même parce que.
Bon, il y a l'âge, évidemment.
Non,
vous êtes toujours aussi jeune, Étienne.
Et j'ai toujours autant de cheveux. Non, mais parce que souvent, les jeunes présentateurs, enfin, en tout cas, ça a été mon cas, ils se cherchent un style. Ils cherchent leur style, leur voix. Et en fait, on essaye de s'inventer un style et une voix qui n'est pas forcément, finalement, quelque chose de très naturel. Et ma voix d'antenne qu'on a entendue là, elle était un peu plus grave, elle était un peu plus... Sans doute parce qu'on veut se rendre super crédible et qu'on est jeune. Hein, je ne sais pas quel âge j'avais, 25 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais cette voix un peu plus grave, un peu plus posée, que pas mal d'ailleurs, je m'attendais à pire. Alors qu'aujourd'hui.
Et un peu formaté avec ce
nanana. Et un peu formaté, voilà. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier, et que j'ai fait plein de choses différentes, et notamment beaucoup d'heures de direct sur Internet, sur Twitch, bah, quand on m'entend parler, c'est très proche de ma vraie voix, quoi.
On va reparler de Twitch, mais vous avez été pendant plusieurs années le visage de la matinale de France Info. Pendant 6 ans, vous étiez sur Europe 1 en amont, sur une tranche encore plus matinale. Alors, c'est une question qui agite vraiment nos auditeurs. Ça ressemble à quoi? Un réveil de matinalier, Samuel?
Je ris parce que c'est... longtemps, je me suis levé à...
De bonne heure.
Joli. Longtemps, je me suis levé à 2h. 2h du matin pour pouvoir être à 3h à la rédaction. C'est à peu près les horaires des matinaliers, ça. Et on le fait pourquoi? Parce que une matinée dans la radio, c'est top. On dit souvent que c'est le prime time de la radio, c'est le matin. Donc, il y a de l'enjeu. On est très fiers de participer à ce genre d'aventure. Donc, je l'ai fait pour France Info, je l'ai fait pour Europe 1, effectivement. Mais quand le réveil sonne à 2h... C'est une violence parce que le corps n'est pas fait pour se réveiller à 2h. Et donc, le réveil sonne, on éteint très vite le réveil pour pas réveiller toute la maison, on pose les deux pieds au sol et on se dit pourquoi? Mais pourquoi? Et puis, on prend son premier café et on sait qu'on va rejoindre une
super... Pour réveiller la France, Samuel Etienne.
Mais oui, on sait que ça va être super, que les gens qu'on va retrouver sont des collègues géniaux, qu'on fait un des plus beaux métiers du monde et ça passe, quoi. Et donc, on fait ça pendant des années. Parce que c'est sympa.
Mais ça a un coût physique, le
oui.
corps, il en paye le prix, non?
Ouais,
est-ce qu'il y a des séquelles?
Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. Moi, j'ai adoré présenter la matinale de France Info, donc on parle de France Info TV, hein, que j'ai présenté pendant 5-6 ans. Et puis, tous ces réveils à 2h du matin, cumulés, je me suis retrouvé des matins à avoir des pertes d'équilibre quand j'étais debout, de voir un petit peu m'accrocher aux tables. Je sentais que je récupérais plus comme avant. Mais je savais que ce moment arrivait parce que j'avais plein de collègues de matinale qui m'avaient déjà
prévenu
et que j'avais vu quitter comme ça des matinales alors que ça marchait très bien, que tout le monde était content d'eux, mais à un moment le physique tient plus. J'ai senti ce truc arriver, j'ai dit je vais arrêter.
On l'a dit, vous avez travaillé à Europe 1 pendant plusieurs années.
Ouais.
C'est une station qui fait aujourd'hui partie de l'empire médiatique Vincent Bolloré.
Oui.
Quel regard vous portez sur ce hub médiatique et sur ces dangers potentiels?
C'est intéressant parce que souvent on dit les médias ça veut rien dire. Quel média? Quelle ligne éditoriale, quelle propriété capitalistique? Alors, on est sur le service public, par exemple, que j'ai beaucoup pratiqué. Et il n'y a pas de mauvais modèle, ni public, ni privé. Par contre, il faut se demander qui possède, quelle est l'intention. la ligne éditoriale et même l'intention.
Vous l'avez vu le virage à Europe, par exemple ?
Bien sûr, ouais, oui, bien sûr. Et puis j'ai vu surtout que dans les rédactions dont on parle, Europe 1, mais iTélé aussi, il y a quelques années, racheté avec le groupe Canal+, par le groupe Bolloré, qui est devenu CNews. Le iTélé où j'ai travaillé 9 ans, moi, n'est pas le CNews d'aujourd'hui. Et le Europe 1 où j'ai travaillé n'est pas l'Europe 1 d'aujourd'hui.
L'ADN a complètement changé.
Ah oui, radicalement. D'ailleurs, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est vrai que quand on écoute un média, quand on lit un média, il faut toujours se demander qui parle. Quelle est la ligne éditoriale, quel est le discours derrière, quelles sont les valeurs.
Ça vous inquiète pas, ce monopole un peu bolloresque qui est en train de se tisser?
Heureusement, c'est pas un monopole. La preuve, là d'où on parle, hein, y a plein de sources d'informations de très grande qualité dans un pays comme la France. Par contre, c'est aux citoyens, à l'auditeur, aux téléspectateurs, de se renseigner, de travailler un petit peu à son niveau pour identifier ces sources d'infos de qualité. Et de les consommer, quoi. Il y a une belle offre. Il y a monopole que si on décide d'écouter ces médias-là, quoi.
En 2020, grand virage, vous découvrez, vous allez sur Twitch, une plateforme donc de vidéos en direct pour nos auditeurs les moins aguerris. Vous pouvez nous définir Twitch en quelques mots?
Bien sûr. Je pense que tout le monde connaît YouTube. YouTube, c'est un endroit où on poste des vidéos. Surtout, et puis les gens réagissent. Twitch, c'est la même chose, mais c'est en direct. C'est-à-dire que c'est une plateforme internet où on poste du contenu en direct. Ça peut être partager sa passion pour les jeux vidéo, ça peut être comme moi la passion pour l'actualité. Et donc, pour donner un exemple concret, tous les matins sur Twitch, pendant 3 heures, je fais un grand rendez-vous d'infos, qui est une grande revue de presse, je dis la presse nationale. Donc je parle
d'information. Vous êtes un peu le Claude Eskolovitch de Twitch.
Ah, c'est gentil ça, ça me fait plaisir. Et donc j'explose l'information, je choisis des articles, des actus, et le grand apport de Twitch, c'est que le public réagit en direct et me pose des questions sur l'actualité, parfois me dit qu'il n'est pas d'accord avec mes analyses, propose son analyse, on vérifie des informations en direct. Donc c'est ce côté interactif et direct de Twitch qui est fabuleux. C'est comme si subitement les téléspectateurs du 20h pouvaient interroger Laurent Delahousse en permanence. Bon, ce qui n'est pas possible vu les millions de téléspectateurs qu'il y a devant le 20h de Laurent. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est plus une info verticale.
Et en quelques mots, qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Qu'est-ce que ça change au-delà de cette interactivité des émissions plus classiques de la télé? C'est le format? Vous vous sentez plus libre?
C'est vrai, c'est d'abord l'interactivité. C'est-à-dire que moi, pendant 30 ans, j'ai émis des infos en radio ou en télé verticales. J'émettais des informations, mais personne ne réagissait. De temps en temps, un mail ou un courrier, point. Là, au moment où vous émettez une information ou une idée, une analyse, elle est tout de suite en débat. Et quand on a goûté à ça, c'est juste fascinant. Et puis, évidemment, vous avez raison, il y a la liberté. Sur Twitch, vous avez une idée le matin, le soir, elle est à l'antenne, vous testez, quoi. Vous n'avez pas tout un processus de validation et de hiérarchie à convaincre. Et vous suivez vos intuitions, et puis parfois, c'est... Ça marche bien.
Vous arrivez sur une plateforme qui est quand même assez jeune, disons-le, je ne vais pas donner votre âge, même si je l'ai sous-entendu. Vous êtes encore jeune, Samuel Etienne, mais est-ce que vous avez une anecdote sur votre arrivée sur la plateforme qui montrait que vous étiez un peu en décalage?
J'en joue beaucoup déjà, parce que je suis beaucoup plus âgé que la moyenne d'âge des streamers, des créateurs de contenu sur Twitch, et aussi, je pense, des viewers. Et donc j'en joue beaucoup de ce statut de papy qui veut pas assumer qu'il a 54 ans. Constance, pour répondre à votre question. Voilà, même si dans ma tête c'est compliqué à admettre, et donc j'en joue beaucoup. Mais au début, ça a été un choc générationnel, c'est-à-dire que quand on est journaliste, on pense qu'on est soi-disant au courant de la marche et de l'état du monde, qu'on est ouvert, qu'on a évolué avec son temps. Mais quand vous êtes en contact au quotidien avec des gens de 30 ans plus jeunes que vous, vous vous rendez compte que non, les valeurs ne sont pas les mêmes sur l'environnement, sur les questions d'écologie, sur les rapports hommes-femmes, sur plein de sujets sur lesquels je n'avais pas tellement travaillé, comme la transidentité par exemple. Là, vous avez des gens qui vous disent papy Sam, les choses ont un peu évolué et on t'explique. Et là, il y a un échange intergénérationnel qui est fascinant, parce que moi, je suis venu apporter des choses sur Twitch, de l'info, mais je ne pensais pas que j'apprendrais autant en retour. C'est cet échange qui est génial.
On va revenir à Question pour un champion. Alors, pour que les auditeurs de France Inter se projettent dans la détresse des fans de Question pour un champion, imaginez que le jeu des 1000 euros ne passe plus en quotidienne sur France Inter. Imaginez que vous n'entendiez la voix de Nicolas Toufflet que le week-end. C'est ce qui va arriver aux fans de Question pour un champion. On va en parler avec vous, Samuel Etienne. D'abord, un petit panorama de la culture. Ça sera après une leçon musicale avec l'une des révélations de l'année, Lola Young sur One Thing.
Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe.
You know where I wanna be.
Wanting sur France Inter, c'était Lola Young qui prépare un nouvel album pour septembre.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h35, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle, c'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
. 2024 a été chaotique pour les Américains du groupe Black Keys. Une tournée annulée, un manager jeté et une sombre affaire de complotisme à la sauce crypto-monnaie. Mais le duo formé par Dan Auerbach et Patrick Carney depuis plus de 20 ans est de retour aujourd'hui avec un 13e album, No Rain, No Flowers. Le groupe de blues rock connu pour son tube Lonely Boy revient avec 13 titres énergiques acclamés par la critique. Ils ont finalement eu le droit à leurs fleurs après la pluie.
Pour moi, la forêt, ça évoque avant tout en été la fraîcheur.
Ça évoque déjà des lieux où j'ai passé une partie de mon enfance, en fait, tous les étés quand j'étais en vacances.
Ça évoque aussi un endroit où je vais souvent pour marcher, pour me promener, pour me calmer, pour me ressourcer.
Un des rares endroits, je trouve, dans le paysage français où on peut se perdre. Il y a des forêts, des grandes forêts en France où on peut se perdre.
C'est quelque chose de plutôt très positif, un endroit où on est enveloppé comme un cocon.
Deux artistes, Mathilde Kailou et Olivier Thomas, qui participent à notre événement gratuit et en plein air du jour. La forêt domaniale de Roumar à Canteleu, près de Rouen, se transforme en un parcours d'art à ciel ouvert. 13 œuvres monumentales jalonnent un sentier de 4 km. Cabanes, sculptures animales, installations immersives. toutes en matériaux durables. Pensée comme un dialogue entre nature et création contemporaine, l'événement célèbre biodiversité et conscience écologique, accessible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça se visite à pied, en famille, entre amis ou en amoureux. La forêt monumentale à découvrir jusqu'en septembre 2026 à Canteleu.
Allez, allez, avance. Oh, allez. Oh, mais... Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Mais tu sais que tu commences à me faire chier maintenant! Tu me fais chier! J'en peux plus de ta gueule! Tu comprends ça ou pas? Bordel!
La merveilleuse Lorca Lamy qui galère avec son âne en tentant tant bien que mal de rejoindre son amant sur le chemin de Stevenson dans le film Antoinette dans les Cévennes. Mais marcher en solitaire ne rime pas forcément avec blessures, moustiques et regrets. L'autrice aventurière Marie Albert affirme même que le foyer reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes et pas la forêt. Avec son livre Rando Solo, le guide féministe publié chez Gallimard, elle signe un manuel pratique et engagé pour randonner et bivouaquer seule quand on est une femme ou une personne minorisée. Un plaidoyer pour la liberté du mouvement. Rando Solo, c'est chez Gallimard.
Dans 8 secondes. Top.
Bonjour à tous. Ce matin, je dois vous annoncer une nouvelle à la fois triste et troublante, bien que j'ignore encore le détail des faits qui lui sont reprochés.
Écoutez-la, elle me condamne d'avance.
Mon collègue, Mitch Kessler, avec qui j'ai présenté cette émission pendant 15 ans, a été renvoyé aujourd'hui.
Va te faire foutre !
Qu'est-ce qui est arrivé à ta télé ?
On n'était pas d'accord.
Auditeurs de France Inter, ne le niez pas, vous avez toujours eu envie d'être une petite souris pour en savoir plus sur les coulisses de la Maison Ronde. Alors la pépite culturelle du jour à rattraper est faite pour vous. The Morning Show, aux États-Unis, alors que son co-animateur est viré pour violence sexuelle, Alex Levy, interprété par Jennifer Aniston, reprend les manettes d'une matinale télé. Entre coup bas et réveil qui sonne bien trop tôt, cette série calmera vos envies de ragots. Alors attention, c'est une matinale sauce Oncle Sam, avec tout ce que ça sous-entend comme hypocrisie et extravagance. Chez France Inter, on est beaucoup plus gentil, calme, et nous, on en a des vrais, des souris dans les bureaux. The Morning Show, dispo sur Apple TV.
Bonsoir à tous, très heureux, très fier aussi de vous retrouver pour mon premier question pour un champion. Un petit peu ému aussi, je dois vous l'avouer, très fier, je vous le disais, notamment de succéder à ce grand homme de télévision qui est Julien Lepers. Je dis bien succéder car on ne remplace pas Julien Lepers, au mieux on lui succède. Un nouveau question pour un champion dans un tout nouveau décor, vous allez le découvrir ce soir. Attention, il y a une chose qui n'a absolument pas changé, ce sont les règles bien sûr de votre jeu préféré.
Votre première question pour un champion, Samuel Etienne, en février 2016. Ouais. Vous prenez les manettes après 28 ans de présentation par Julien Lepers. Cet été, la direction de France TV annonce la fin de la diffusion quotidienne de ce quiz emblématique. Il y a une pétition de fidèles qui a circulé. Comment se justifie la direction de France Télé ?
Je les ai appelés du coup, parce que je voulais comprendre. Il y avait des informations dans la presse qui étaient rapportées, mais qui ne citaient pas la direction de France Télévisions. J'ai voulu en avoir le cœur net quand même, parce que je suis très attaché à ce jeu. Et pour dire les choses, je pense que c'est une mauvaise décision, hein, c'est une erreur. Il y a parfois des gens très intelligents qui prennent des mauvaises décisions, et ici c'est le cas. Donc on m'a dit officiellement que c'est parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc ça, bon, le service public de l'audiovisuel le connaît bien, hélas. Il y a moins de budget. Il fallait faire des économies et je me dis bah pourquoi question pour un champion, ce jeu qui est numéro 2 des audiences dans sa case horaire tous les jours, une émission qui a rebondi en audience depuis 9 ans, dont l'image est rajeunie, dont les candidats sont de plus en plus jeunes, enfin l'émission marche, elle a une très bonne image, donc pourquoi ce jeu? Et parce que m'a-t-on répondu, c'est le jeu le plus ancien que nous avons, donc on trouvait logique de supprimer le plus ancien. Je dis ok, même si c'est celui qui marche le mieux sur France 3. Et on m'a dit aussi parce qu'à l'origine il y a 20 combien de questions pour un champion, c'est je ne sais plus, 88, donc ça fait 37 ans. C'est aussi un format qui à l'origine était anglo-saxon et pas français,
donc c'est pas une création originale.
On trouve dommage, donc alors je dis c'est bien d'avoir mis combien, 37 ans C'est bien d'avoir mis 37 ans pour se rendre compte, mais effectivement, j'ai dit que je trouvais que c'était des explications que je trouvais pas très carrées, quoi. Donc je l'ai dit. D'ailleurs, je suis pas sûr que cette prise de parole ait été très appréciée par la direction de France Télévisions, mais peu importe. Moi, je devais dire que je pense que c'est une mauvaise décision. Et quand les téléspectateurs de Question pour un champion, je rappelle que c'est la deuxième audience, on est numéro 2 en audience chaque soir. Du lundi au dimanche, quand les téléspectateurs vont venir lundi début septembre et qu'il y aura pas question, et mardi début septembre qu'il y aura pas question, et mercredi et jeudi et vendredi qu'il y aura pas question, je pense que ces gens vont sentir orphelins. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu, il y a pas un jeu qui a ce niveau de culture générale là, et je voulais en fait porter cette voix là en disant que j'étais pas d'accord, quoi.
On va revenir sur les coulisses de Question pour un champion, et plus largement on va aussi revenir sur les jeux télé avec une petite surprise. On va être rejoint par Gilles Brindjon, qui est fan de l'émission et puis à la tête de plusieurs clubs Question pour un champion. On reprend avec un titre qui nous excite, c'est Malik Doudji sur France Inter. C'était Exit de Malik Doudji qui poursuit sa tournée. Prochaine étape le 30 août au festival Bivouac.
Le mag de l'été sur France Inter.
Je suis toujours avec vous, Samuel Etienne, pour parler de divertissement et de champions. On a d'ailleurs été rejoint par Gilles Brindjon. Bonjour,
vous dirigez
trois clubs Question pour un champion. Avant de revenir dans le cadre Question pour un champion, on avait envie de sortir justement du cadre France 3, car les champions ignorent les frontières. On a réussi à décrocher un entretien avec la superstar des 12 coups de midi, Emilien. Il est resté 3 ans à l'écran. Il a été éliminé le 6 juillet dernier. Il a même eu le droit à un papier dans le New York Times. Emilien, bonjour.
Bonjour.
Vous avez participé à 640 émissions des 12 coups de midi depuis septembre 2023. 640 émissions, c'est énorme. Comment vous vous organisiez pour les tournages ?
J'avoue que l'organisation, en fait, était un peu particulière dans le sens où je ne faisais presque plus que ça et je consacrais tout mon temps à ça. Donc j'étais en études à côté et en fait, il a fallu que je mette en pause mes études. J'essayais au départ de concilier à la fois les études et les tournages de l'émission. Et puis, je me suis rendu compte simplement qu'il n'était pas jouable.
Si on parle purement des tournages, en termes de calendrier, ça se passait comment ?
En fait, ça tourne une, deux ou trois semaines de suite, avec des pauses d'un mois ou deux mois entre les sessions. Et ces journées de tournage-là sont des journées où il y a cinq ou six émissions qui s'enchaînent dans la journée. Autant dire qu'on dort bien le soir.
Vous dormez bien le soir, mais comment vous révisez alors ? Parce qu'il y a toute une préparation, j'imagine, très intense pour jouer et pour gagner.
En fait, je jouais beaucoup entre les sessions. Je jouais en ligne, effectivement, et je jouais également dans des clubs de quiz. Il y a des clubs questions pour un champion qui existent. Ce sont des clubs en banlieue toulousaine, où même je ne fais pas partie que d'un seul club. Je les cumulais pour jouer le plus possible. C'était vraiment... Mon travail à plein temps même, je dirais, pendant que j'étais à l'émission, je passais tout mon temps entre les sessions à réviser au maximum. Et dès que j'entendais une question où la réponse m'intéressait, ou je connaissais pas la réponse, eh bien, je notais l'information, et puis ensuite, je passais ça dans un document de notes, et ensuite, je mettais ça dans une application de flashcard, de carte mémoire. Oui, j'essayais de revenir en fait le plus régulièrement possible sur l'information pour essayer de la retenir. Et puis en dehors de ça, en dehors des clubs et du jeu, j'essayais juste de me tenir informé le plus possible de l'actualité, vu que l'émission reste quand même très collée à ce qui se passe. On sait dès qu'on arrive, dès le premier jour, on sait qu'on finira par perdre. Et en l'occurrence, de mon côté, ça, j'ai eu la chance que ça dure presque 2 ans. Donc en fait, c'est juste incroyable et je suis juste extrêmement chanceux que ça ait duré aussi longtemps.
2,5 millions d'euros, 23 voitures à 22 ans. Est-ce que vous gardez les pieds sur terre ?
C'est démesuré, en fait. Ça, on le sait très bien et ça commence dès le début. On revient, je dirais, à la vie réelle très vite entre les sessions.
Ben merci beaucoup, Émilien. On va continuer à vous suivre et à suivre vos aventures sur les réseaux sociaux. Et merci pour votre temps.
C'est gentil. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Et on continue dans la fabrique des champions avec vous, Gilles Brindjon. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes à la tête de 3 clubs Question pour un champion. Elle vient d'où, cette passion pour cette émission ?
Alors, bonsoir Samuel, bonsoir Constance, bonsoir à tous les auditeurs. Quand j'avais 15 ans, quand j'étais en Bretagne, ben, j'ai suivi l'émission dès la fondation 87, parce que j'avais 14 ans à l'époque. Et quand j'ai toujours adoré ça, et quand je suis venu à Paris il y a 25 ans, bah, c'est ça qui m'a donné l'envie de créer mes 3 clubs, en fait. Donc voilà, c'est l'envie, la passion, un jeu culturel. Et aujourd'hui, j'ai 3 clubs et je salue mes adhérents qui m'écoutent ce soir.
Ça voilà. Consiste en quoi, pour nos auditeurs, des clubs questions pour un champion ?
Alors les clubs questions pour un champion, en fait, c'est on est en étroit lien avec l'émission. Déjà avec Samuel qui nous a rajeuni l'émission et je le remercie pour tout ce qu'il fait parce que franchement, c'est interactif. Il a donné un coup de jeune à l'émission et grâce à ça, les clubs, ça s'est ressenti. Aujourd'hui, on accueille des étudiants et tout ça. Et en fait, ça permet à toutes les personnes qui sont fans de l'émission de se retrouver dans cette passion, de passer des bons moments dans l'esprit convivial.
Donc sympa. Des moments de quiz ?
Exactement. On utilise des questionnaires entre nous, les clubs, on se les envoie. On applique exactement les règles comme à l'émission. Simplement, chacun apporte ses connaissances et ça a plaisir de se retrouver.
C'est l'occasion de parler des coulisses aussi de l'émission Samuel oui. Etienne. Comment ça se passe pour les questions ? Parce que j'imagine qu'il y a qui prépare les fiches. Comment on fait pour que les questions ne réapparaissent pas ? Comment vous faites ?
Parce qu'on est une équipe incroyable. On a une douzaine de rédacteurs et rédactrices à temps plein en CDI. Question pour un champion, dont le travail est toute la journée de trouver des nouvelles questions. Wow. Et ils ont un logiciel complètement fou, où à chaque fois qu'ils ont une idée de question ou de thématique, en fait, ils rentrent la question pour vérifier qu'elle n'a pas déjà été posée récemment sous cette forme. C'est un travail incroyable et la longévité de Question pour un champion tient beaucoup à la qualité en fait, de ces questions. Quoi.
Qualité des questions, et Gilles Brindjon, dans les clubs Question pour un champion, vous faites comment ? Alors, vous échangez des questionnaires, vous l'avez dit, entre clubs, mais comment vous...
Alors, en fait, on a 3 niveaux d'activité au quotidien. D'abord, on se retrouve, moi j'ai 3 clubs, donc on se retrouve à 4 séances par semaine.
Ah oui.
Déjà, donc ça permet aux gens qui sont vraiment passionnés d'aller 4 fois par semaine pratiquer donc notre activité. On utilise des questionnaires qui viennent d'autres clubs, selon le même modèle que l'émission.
Oui.
Et donc ça, c'est le premier mode. Le deuxième, c'est qu'on organise des tournois entre clubs. Je salue les clubs de Rambouillet, Morpa, Cergy et Méry, qui nous rejoignent régulièrement. Villeneuve-le-Comte, on a fait une grosse soirée au mois de juin comme ça. On a fait une soirée, c'était très sympa. Donc chacun confond ses connaissances et tout. Et puis la dernière chose, dernier moyen, c'est qu'on participe à des activités avec les municipalités.
Gilles voilà. Brindjon, vos proches, ils en ont pas un peu marre de votre passion pour un
champion? Au contraire, puisque j'ai ma fille aînée Marine qui m'aide à animer des sessions au niveau des forums et puis également des animations avec les mairies. Donc c'est même au niveau, c'est une participation familiale.
Vous avez tenté de participer à l'émission ?
Alors, j'envisage, comme je suis déjà très pris par les clubs, mais par contre, j'ai plusieurs candidats de chez moi qui sont venus, dont Michel, que je salue, qui est allé quasiment à un mot près, qui a échoué à la cagnotte, donc voilà.
Je salue d'ailleurs mon père et mon frère qui ont participé, eux aussi,
à
l'émission
voilà,
sous l'air
Le Perse.
Donc vous vous réunissez, vous avez dit 4 fois par semaine.
Ouais.
Comment vous avez réagi, vous, et puis les fans qui, j'imagine, peuplent ces clubs à l'annonce de France Télévisions?
Alors moi, c'est très simple, je vais vous dire. Donc j'en ai discuté avec tous les clubs avant de venir. Et aujourd'hui, nous, c'est une incompréhension totale. Parce que Samuel a fait redynamiser cette émission. Aujourd'hui, on a, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des publics. Et franchement... on ne comprend pas, parce que c'est une émission qui marche super bien, les clubs marchent bien, on a une très bonne image, et franchement, comme l'a dit Samuel, l'argument de la direction de France Télévisions ne tient pas. Donc nous, ce qu'on demande en tant que club, on a envoyé des pétitions, on a envoyé des courriers à Emmanuel Macron, il y a des députés qui ont envoyé des courriers à la France Télévisions. Ce qu'on demande, c'est revenir, comme l'a dit Samuel, à maintenir cette émission
au quotidien.
Au quotidien. Parce que ce qui veut dire, si ils enlèvent l'émission au quotidien, dans un an, qu'est-ce qu'ils vont faire? La supprimer là, définitivement, comme ils l'ont fait pour les chiffres d'aide.
C'est inadmissible. Vous allez continuer les clubs, Gilles Brindjon?
De toute façon, moi, ça fait 23 ans, je continue, donc je continuerai jusqu'à la fin.
C'est quel genre de public, parce que vous avez commencé à 27 ans, à lancer vos clubs au tout début, c'est quel genre de public peuple ces clubs question pour un champion en France?
Chez nous, dans tous les clubs, en fait, il y a vraiment, tout est basé sur la convivialité, l'esprit de l'émission, mais on apporte cette convivialité, ce quotidien. Il y a un côté social aussi, parce qu'il y a des gens, c'est leur unique sortie de la semaine, et on permet à des gens aussi de se rencontrer, de se voir en dehors. Donc on a un lien culturel, un lien social, un lien intergénérationnel. Vous savez, on disait Tintin, ça va de 7 à 77 ans. Bah, nous, c'est un peu ça aussi. Voilà.
On a entendu Émilien des 12 coups de midi qui s'entraînait avec acharnement. Est-ce que vous vous entraînez, Gilles Brindjon?
Alors, moi, oui, je m'entraîne déjà un petit peu. Mais
comment?
Alors, tout simplement, il y a les questionnaires en ligne. On a le site de France 3 qui propose des entraînements en ligne. Après, on s'en compte entre nous, on fait des tournois, on fait des choses, on confronte nos connaissances. Et ça, c'est très important. Mais je reviens sur ce que vous disiez, votre présente question, le leitmotiv. Et j'appelle tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, se manifestent auprès de France Télévisions, parce qu'il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui sont fans de l'émission. Je les invite vraiment à se manifester auprès de France Télévisions, des parlementaires, et de la présidence de la République pour maintenir cette émission.
On entend l'émotion.
Une pétition, on va faire
exactement
comme pour la loi Duplon. Hein. On va l'amener
exactement,
à 2 millions de signatures.
On voit que ça marche.
Et comme ça, ça va.
On entend votre investissement, Gilles Brindjon. Samuel Etienne, vous pouvez nous expliquer pourquoi, question pour un champion, c'est un monument de télévisuel. Pourquoi il faut. Enfin voilà, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est important?
Parce que ce jeu n'a pas son équivalent. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a autant de candidats qui. Et de toute génération, et notamment de plus en plus jeunes qui viennent jouer. Nous, on a noté ces dernières années l'âge moyen du candidat de question pour un champion vraiment baissé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de candidats de 20 ans et 30 ans désormais. Et les candidats les plus anciens sont très heureux d'ailleurs de voir ce rajeunissement. Pourquoi? Parce que aucun jeu n'est aussi difficile que question pour un champion. C'est pas le jeu où on gagne le plus d'argent, où on gagne 2,5 millions.
Et on gagne des dicos. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup à la maison.
C'est pas le jeu où on gagne le plus d'argent, mais pour un candidat, gagner pour question pour un champion, c'est vraiment quelque chose, quoi. Parce que c'est tellement difficile. Et puis, il y a la qualité des questions, le niveau des questions. Et puis, il faut saluer Julien, qui n'est pas avec nous là, mais je pense que dans l'histoire aussi longue de question pour un champion, la patte Julien, qui l'a animé pendant 27-28 ans, il est pour quelque chose. Et pour toutes ces raisons, question pour un champion à cette histoire singulière, c'est un jeu ancien par sa date de création, mais complètement moderne par son public, par les candidats qui viennent et par les questions qui sont ancrées dans l'actualité. il n'y a aucune raison que cette histoire ne se poursuive pas encore des années.
Moi, je vais vous dire...
Non, mais,
excusez-moi de vous couper, ça.
Non, bien sûr.
Je vais vous dire, aujourd'hui, on a des étudiants de 19 ans qui viennent. Il y a 20 ans, on n'avait pas du tout ce public-là. En fait, grâce à Twitch, il y a des, je crois que c'est des youtubeurs qu'on dit, ouais, qui reproduisent, qui sont en relation avec vous, et ça nous a attiré tout un nouveau public. Donc, en fait, supprimer l'émission, alors qu'aujourd'hui, on a élargi un public qui serait jamais venu sans Samuel, c'est incompréhensible.
Rejoignez la lutte donc pour maintenir, oui, Question pour un champion. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, la bonne émission, c'est encore mieux. Alors, on met quoi dans la valise? C'est le kit de survie culturelle. Samuel Etienne, un streamer à suivre absolument sur Twitch.
Alors, je peux en donner deux?
Allez.
Étoile, qui est justement quelqu'un qui a un passionné de questions pour un champion, oui, et qui m'a fait connaître, voilà, Twitch. Voilà. Et puis Flamby, qui est un créateur de contenu. Ah, pas Flamby, le petit surnom qu'on avait donné à un ancien président. Non, ça c'est pas très... Non, Flamby, c'est un créateur de contenu. Et là, c'est quelqu'un qui fait un stream ininterrompu là, depuis des jours et des jours et des jours. Il s'est donné l'objectif de perdre 10 kilos. Il ne coupera pas son live tant qu'il n'aura pas perdu ses 10 kilos. Donc,
ok.
Voilà, donc faut l'encourager.
Gilles Brindjon, un autre jeu télé à regarder absolument?
Non, il y en a qu'un. C'est toujours un champion. Il n'y en a pas d'autres.
Alors, regardez Question pour, voilà, un champion. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment.
Je peux juste...
Merci à tous les deux, Samuel Etienne. Question pour un champion est diffusée tout l'été à 18h sur France 3 et le week-end à partir de la rentrée. On vous retrouve aussi sur votre chaîne Twitch et dans l'émission Ma Vie Pro sur Twitch également. Gilles Brindjon, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais. Vous avez 5 secondes.
En 2 secondes, merci à vous, Constance, Samuel et France Inter. Et bonjour à tous les clubs, continuons notre lutte.
Merci Gilles.
Et puis on souhaite évidemment de prendre du repos à Emilien qu'on a entendu. Joyeux et joli mois d'août à tous les trois. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero à la préparation, Tarana Touré et Ibrahim Damani, Étienne Bartin et Étienne Kenel à la réalisation, assisté d'Amazir Amadaïn Guest et à la technique Corentin Rouchi.